Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Europe 1.
16h-18h. L'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe sauvage, non plus en duplex de mon salon, non, on a franchi chez les Noël un nouveau stade dans le confinement.
Oh là là.
Dans le petit monde des disputes conjugales, on appelle ça une Axelle de Tarlé. Comme Fouquet sous Louis XIV, comme Victor Hugo après le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte, me voilà exilé, apatride, renégat, relégué dans la chambre, avec pour seul horizon des caleçons et des chaussettes qui pendouillent sur le sèche-linge. J'ai bien essayé d'expliquer à ma compagne l'importance pour moi d'être dans le salon pour exercer mon art. Elle n'a rien voulu entendre.
Alors écoute bien, tes problèmes de boulot, tes problèmes en général et en particulier, je m'en fous comme de l'an 40. Tu m'entends, je m'en fous. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
D'accord.
Je n'en ai vraiment rien.
Ok, très bien. Eh bien, voilà, je me retrouve dans ma chambre. Heureusement que je retrouve ici chaque après-midi une oreille plus compatissante. Bonjour Eva Roque.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Vous voyez comme maintenant vous m'appréciez. Vous comprenez la valeur des êtres.
C'est avec vous, j'aurais dû être confiné.
Et voilà.
Comment occuper tous les confinés par tranche d'âge, voilà votre mission quotidienne désormais, Eva.
Oui, exactement. Et alors aujourd'hui, sur les écrans, des coups de cœur pour les enfants et un gros, gros, gros coup de cœur pour les adultes.
Vous allez nous livrer les détails de cet alléchant programme. Mais d'abord, Eva, notre plaisir depuis 49 jours, vous le savez, faute de pouvoir les accueillir en studio chaque après-midi, on prend des nouvelles d'une personnalité. Aujourd'hui, quelqu'un que je connais bien, mais que visiblement, Eva, vous connaissez encore mieux.
Oula.
Puisqu'à l'issue de l'émission qu'on avait enregistrée avec lui en octobre dernier, vous vous étiez exclamé, visiblement très impressionné.
Il était monté, le gourmand.
Bonjour, Jamy Gourmaud.
Jamy, je suis désolée, j'ai jamais dit un truc pareil.
Excusez, Eva,
mais vous êtes vraiment
dans un programme familial.
Pff, n'importe quoi. Oh là là.
Comment ça va, Jamy Gourmaud? Vous êtes au top, Jamy. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos par les temps qui courent en confinement pour aider les gens. Vous, vos vidéos, elles sont vraiment d'une grande utilité parce que c'est une bouffée d'air frais. C'est dans l'esprit, on va le dire, hein, c'est dans l'esprit un peu de ce qui a fait votre légende avec C'est pas sorcier, quoi. Une pastille, 1 minute 30. Une explication,
voilà,
scientifique.
Enfin, scientifique ou pas forcément, hein, un peu de culture générale aussi, puisque l'autre jour j'ai expliqué l'origine de l'applaudissement, quelques expressions aussi. Donc je tire un petit peu tous azimuts, si vous me permettez l'expression.
je vous l'autorise, Eva pourra la détourner certainement. Et vous avez donc créé votre chaîne YouTube. Il paraît que c'est une demande des enseignants, ça, carrément.
Ben oui, parce qu'au départ, ces capsules de déconfinés, hein, telles que je les ai baptisées, étaient plutôt destinées à mes réseaux. Mais très vite, hein, au bout d'une petite semaine, j'ai commencé à recevoir des messages d'enseignants qui me demandaient de les rendre un peu plus accessibles. Et le seul moyen de les rendre plus accessibles, c'était de les mettre sur YouTube et de créer cette chaîne qui n'existait pas auparavant.
Résultat, 380 000 abonnés, si je ne m'abuse, en quelques jours.
Ah, c'est pas mal, hein.
C'est vrai que c'est un peu impressionnant. Je ne m'attendais pas du tout à ça.
Alors, Jamy, comment on va parler de cette chaîne YouTube, de la manière aussi dont vous vivez votre confinement. Juste le temps de vous présenter nos deux premiers concurrents pour le titre de chroniqueur du jour. Le premier est notre fournisseur officiel d'émotions. Correspondant d'Europe 1 dans l'Est, Arthur Mbaché a la carte de presse d'un journaliste, mais l'âme torturée d'un poète. Après nous avoir sensibilisé aux vertus de l'ennui méditatif avec sa webcam qui permettait de suivre le quotidien inintéressant d'un couple de cigognes, il nous a initié la semaine dernière à la magie du fitness de balcon.
Liliane, Séverine, Patrick, les survêtes des quatre, la sono et les chipots.
Oui, il est un véritable ambassadeur pour sa région. Bonjour Arthur Mbaché.
Bonjour tout le monde, les cigognes sont nées. Hein,
ça y est.
Mais oui.
Ouais. Aujourd'hui Arthur, vous nous parlez d'apiculture car le confinement a du bon pour les abeilles.
Ben oui, alors qu'ici en zone rouge, ici en Alsace, les humains flippent, redoutent de devoir se coltiner quelques semaines de confinement. En plus, les abeilles alsaciennes, elles, sont plus heureuses que jamais, heureuses et très productives.
Et donc on va avoir du bon miel cet été.
Exactement.
Face à vous Arthur, le hasard faisant bien les choses, c'est un de vos plus cruels détracteurs que vous allez devoir affronter dans cette manche. Neveu du comte de Paris, cet aristocrate n'a que mépris pour la province. Mépris palpable, puisqu'à chaque fois qu'il cite quelqu'un n'habitant pas Paris, il prend cet accent.
On entend du coup beaucoup les élus locaux dire « Attendez, oh, arrêtez de tout vouloir gérer depuis Paris, là !»
Bonjour Axelle de Tarlé.
Je suis un provincial. Si j'ai l'accent, c'est parce que je suis né à Toulon, que j'ai habité Valence.
C'est vrai ?
Que des trous paumés pour vous. Mais pour moi, c'était ma vie.
Bah, pas du tout. Bah, dis donc, je passe mes étés là-bas, vous êtes gentil. Alors, vous êtes notre expert économie en ce moment, Axel. Clairement, ce n'est pas vous qui êtes en charge de la partie feel good, positive vibes de cette émission. Non seulement la croissance a atteint son plus bas historique, Mais le pire serait à venir?
Mais non, justement, je vais vous faire une chronique feel good. Écoutez, il y a deux chiffres qui doivent nous interpeller. La croissance, effectivement, a fait moins 5,8% au premier trimestre. Mais les émissions de CO2, vous savez combien elles font en ce moment? Moins 58%.
Ah oui.
10 fois plus. Eh oui. Donc nous vivons un formidable moment décroissant. Et cette baisse des émissions de CO2, ça doit quand même nous interroger.
Merci Axel. Eh bien, le programme est donné. L'équipe est sauvage, peut démarrer.
L'équipe est sauvage.
Notre invité du jour en ligne avec nous tombe à pic. Dans C'est pas sorcier, il répondait à toutes les questions qu'on se posait. Et là, en cette période de confinement, des questions, eh ben, on s'en pose plein. Surtout qu'on entend toutes sortes de choses. Jeudi dernier, par exemple, hors antenne, Eva s'exclamait à la stupeur de ses collègues.
Tu sais que t'es pas obligé de te laver tous les jours hein, quand tu es à la maison.
Bah enfin, Eva.
Bah oui, je suis désolée.
Que dit la science, Jamy Gourmand? Est-il vrai, comme le dit Eva, qu'on n'est pas obligé de se laver tous les jours quand on est confiné? Ou bien Eva est-elle simplement une grosse dégueulasse? Je vous laisse répondre à cette question.
Jamy, est-ce que j'ai pas raison?
Vous avez tout à fait raison, vous n'êtes pas obligé de vous laver tous les jours. Après, tout dépend avec qui vous vivez et jusqu'à quand va durer ce tous les jours.
Jamy Gourmand, non, Eva, ne vous justifiez pas.
Non,
vous
non, c'est
de,
bon,
comme,
j'ai
comme
rien
vous
dit.
Êtes seul, vous avez voilà. De ne pas vous laver pendant une bonne semaine.
Mais enfin, je suis avec Romain Causer quand même, hein, et Rémi Duprat.
Mais voilà. J'ai des messages de nos réalisateurs qui me disent si elle pouvait se laver, ce serait quand même pas plus mal.
Oh là là.
Jamy Gourmand, merci d'être avec nous en ligne cet après-midi. D'autant que vous êtes vraiment, vous ne chômez pas. C'est-à-dire que c'est pour certains, ce moment de déconfinement est un moment d'introspection, on prend du temps pour lire. Vous, vous bossez parce que les petites pastilles, là, tous les jours, il faut y penser, il faut les produire aussi. Comment vous vous organisez, en fait?
Eh ben c'est en plus du reste, en fait, parce que ces petites capsules, souvenez-vous, hein, le 17 mars dernier, on était censé être confiné pendant une quinzaine de jours, bien
oui.
Qu'on imaginait que ça devait durer un peu plus longtemps. On partait grosso modo pour un mois. Là, on arrive aux 50 jours. Donc, effectivement, c'est un petit peu plus long que prévu. Mais en même temps, c'est un vrai défi. Alors, comment ça se passe? Ben, je me lève très tôt le matin. J'écris entre 6h30 et 7h30. Puis, je confie le texte, je le lis à ma compagne, mon épouse, qui va imaginer les supports que nous allons utiliser quand il est nécessaire d'en avoir. Et elle fabrique ses supports et ensuite on tourne entre midi et deux. Voilà comment ça se passe.
Alors, parmi les thèmes, alors il y a plein de thèmes récemment que vous avez abordés. Pourquoi la banane noircie? D'où vient le symbole des œufs de Pâques? Comment décolle une fusée? D'où vient la poignée de main? Ça, c'est une question qui nous intéresse par les temps qui courent, vu qu'on n'a plus le droit de se serrer à la pince. D'où vient la poignée de main? Alors, Jamy, ça, vraiment, c'est vrai qu'une question que je n'ai jamais posée.
Alors, la poignée de main, je crois que les premières traces de poignée de main que l'on a, c'est 4 ou 5e siècle avant notre ère. Il y a déjà sur des stèles funéraires, des bas-reliefs qui montrent des poignées de main.
Ah oui.
Apparemment, la poignée de main serait un geste pour montrer qu'on va rencontrer quelqu'un avec de bonnes intentions. C'est-à-dire que durant l'Antiquité, il y avait beaucoup d'attaques à l'arme blanche et quand on croisait quelqu'un et quand on voulait aller vers un inconnu simplement pour échanger, eh bien, il était de bon ton de tendre la main et de montrer qu'elle était vide, qu'elle ne tenait pas d'arme blanche. Voilà, ce serait un peu l'origine de la poignée de main, un geste qui aurait été repris ensuite au Moyen-Âge, puisque les chevaliers utilisaient ce geste pour montrer qu'ils n'avaient pas d'arme dans la main. Ils montraient la main droite, hein, celle que l'on se serrait encore il y a quelques semaines, la main droite, parce qu'à l'époque, eh bien, on tenait l'épée de la main droite. Voilà un petit peu l'origine de la poignée de main.
D'ailleurs, Mathieu, maintenant, dorénavant, quand on se reverra, Mathieu, on se serre à la main pour voir si vous n'avez pas une arme cachée.
Ne prenez pas de risque, Eva. Mais non, mais qu'est-ce que c'est vous, c'est vous qui voulez ma place, Eva, depuis toutes ces années. C'est pas l'inverse. Hein.
C'est ça, oui.
Occupez-vous intelligemment en explorant le monde et la science via sa chaîne YouTube. Jamy Gourmand fait un bout de chemin avec nous cet après-midi.
Europe 1.
Il aime les cigognes, il dirige des séances d'aérobic sur balcon, mais il a aussi des potes apiculteurs à qui il file en ce moment un petit coup de main en dressant leurs abeilles.
2, 3, 4, descends plus tes fesses Sonia, voilà, c'est bien Sabrine. Allez, lâche pas Liliane.
Oui, votre star du journalisme surréaliste Arthur M. Bachet est de retour avec aujourd'hui un sujet sur un des rares secteurs qui tire profit du confinement, l'apiculture. A tout de suite.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1 au service de votre culture G. Une compétition dominée depuis quelques semaines par le talent aussi insolent que nonchalant d'Arthur Mbaché, notre correspondant dans l'Est, qui enchaîne les victoires avec la décontraction rieuse de Michael Jordan écrasant la NBA dans les années 90, sous l'œil torve et jaloux de ses concurrents qui commencent à perdre patience, notamment Axel de Tarlé, notre expert éco, qui la dernière fois a carrément déposé une réclamation.
Si je peux me permettre, j'ai une plainte en concurrence déloyale contre monsieur Mbaché Arthur. C'est pas une chronique journalistique, c'est un sketch humoristique qu'il a fait.
Ah, le rabat-joie.
Arthur Mbaché, vos chroniques sont souvent du miel pour nos oreilles, mais particulièrement aujourd'hui.
Je vais faire du sérieux pour que Axel puisse perdre, mais à la loyale aujourd'hui.
Ah, ça commence.
Alors, je vais reprendre les termes d'un apiculteur, en effet, alsacien, dans les Vosges du Nord, qui parle pour cette année, pour ce qui se passe en ce moment même, de rentrée de nectar exceptionnel et de mielée intense.
Oh, tout un programme.
Tous les jours, de gros volumes, plusieurs kilos. Vous savez qu'une ruche, c'est composé de plusieurs étages, si on peut dire, des cadres qui sont installés l'un à côté de l'autre. Eh bien, quelques heures suffisent pour remplir un seul cadre de miel. En 20 ans de métier, me dit ce producteur alsacien, j'ai jamais vu ça. Et c'est pareil chez tous ses collègues.
Alors c'est quoi la cause de cette situation exceptionnelle? Le confinement?
Absolument, pas que, mais c'est un facteur ultra important. Alors c'est vrai, on va d'abord voir les autres facteurs qui n'ont pas de rapport avec le confinement. La principale, c'est la météo. Au début du printemps, il a fait bien moche. En tout cas, il a beaucoup plu, de quoi imbiber les sols, faire plaisir aux plantes. Et grosso modo, même si là, ça fait quelques jours qu'il fait un peu moins beau, mais depuis le début du confinement, il a fait méga beau. Les abeilles sortent tranquillou ici en Alsace et tombent sur des fleurs au top. Et puis, je ne sais pas comment c'est chez vous en région parisienne, mais ici en Alsace, on est sur une grosse année niveau pollen.
Ah
on
bah le oui, voit. Là,
bah nous aussi,
ah
oui, on est sur une
pareil.
Très très grosse année. Là. Oui, oui, oui.
On le voit, là, moi je vois dans ma rue sur les voitures un peu sombres, cette fine couche de poudre jaune. Et pas la peine, les enfants, de vous rappeler vos cours de SVT du collège. Les abeilles, le pollen, elles kiffent.
Mais en plus de ça, Arthur, il y a un effet confinement.
Le calme environnemental avec un effet sur la flore. D'abord, imaginez des pistes cyclables pas empruntées, des chemins agricoles, des chemins forestiers pas piétinés. Résultat, des fleurs de pissenlit à la pelle, des haies d'aubépine qui se font plaisir, qui s'épanouissent, touffues et généreuses. Généreuses pour la faune, donc les abeilles en particulier, qui elles aussi profitent du calme. Imaginez. En temps normal, Mathieu, avec vos gros sabots, vous passez à côté d'un oiseau, il s'envole. Eh ben, m'a expliqué cet apiculteur alsacien, c'est pas un scoop, mais il me l'a dit quand même, pour les abeilles, c'est pareil. Or, il n'y a personne dans les sentiers, pas de bruit en forêt, les bûcherons sont à la maison, circulation automobile, évidemment, quasi inexistante, surtout en zone rurale. Pour utiliser un terme un peu scientifique, désolé, pour les abeilles, c'est la teuf.
Oh, vous êtes tellement pointu. Et on perd des auditeurs, là, c'est trop complexe.
Je fais attention de ne pas lâcher les auditeurs. Pour être plus précis, le potentiel mellifère s'exprime à plein, dit-on, dans les Vosges du Nord. Pour finir, je lance un appel aux auditeurs qui circulent en voiture en ce moment. Est-ce que vous aussi, vous redécouvrez les joies, si on peut dire, des moustiques écrasés sur le pare-brise? Il paraît que ça revient. On avait oublié ça au fil des
années. Ah, oui, c'est vrai.
Ouais. C'est vrai. Ben,
ce serait évidemment une super nouvelle pour les vendeurs de liquide lave-glace et pour la planète. Petit rappel, ça fait 10, 20, 30 ans que les insectes disparaissent de notre environnement et avec eux, ceux qui les mangent, donc les oiseaux, et une bonne partie de notre biodiversité.
Donc les effets positifs du confinement, voilà, on aura du bon miel.
Ouais. On aura du bon miel. Et avec tout ce qu'on s'est mis là, parce que comme on est à peu près au régime depuis 49 jours, je peux vous dire que j'ai déjà fait 4 kilos. Si en plus on se met du miel derrière, on va finir vraiment joli en summer body, en mode winter body pour l'été. Merci voilà. Arthur Mbaché. Axel de Tarlé, votre sentiment à l'issue de la chronique de votre adversaire?
Si je ne gagne pas, bah c'est que c'est personnel.
Voilà.
Merci.
Europe 1.
Tout ce que je connais en sciences de la Terre, en physique chimie, en géologie, je le lui dois. Cet après-midi, Jamy Gourmaud est en ligne avec nous pour venir en aide aux parents qui galèrent à faire réviser leurs enfants. Il crée sa chaîne YouTube, une excellente nouvelle, car comme il nous l'avait prouvé la dernière fois, Jamy est un journaliste scientifique qui a vraiment réponse à tout. C'est simple, il est incollable.
Que les poissons ont soif?
Eh ben oui, les poissons boivent. Hein, c'est-à-dire que avec le parce que là vous me prenez de court, c'est pas facile.
Et oui, mais promis, aujourd'hui on lui posera pas de questions pièges. À tout de suite, Jamy.
Europe 1, l'équipe est sauvage. 16h-18h.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission qui vous permet deux choses. Un, de découvrir un invité sous un autre angle, en l'occurrence aujourd'hui Jamy Gourmaud. Et deux, de départager les meilleurs journalistes d'Europe 1 en élisant le chroniqueur du jour.
Alors là, je m'en fous royalement.
Ok Jamy, alors on va donc plutôt parler de vous. Vos vidéos, la capsule de déconfiné, connaissent un succès fou à tel point que vous avez créé votre propre chaîne YouTube. On l'a dit, à la demande des enseignants. C'est vrai qu'en ce moment, on se transforme tous un peu, par la force des choses, en instituteurs à domicile pour nos enfants. Et bien là, on tape Jamy Gourmaud sur Internet et on a plein de trucs sympas à leur raconter. Une question scientifique, vous n'allez pas y couper, parce qu'un jour, j'avais posé la question à Alain Sirou, notre expert ciel et espace, je n'avais rien compris à sa réponse. J'ai vu qu'il y avait une des pastilles qui concernait les trous noirs. Qu'est-ce qu'un trou noir et pourquoi est-ce qu'on appelle ça un trou noir?
Alors là,
je ne comprends pas ce qu'est un trou noir.
Alors vraiment, pour faire très très vite, vous prenez une pomme, vous la lâchez, elle tombe, vous êtes d'accord?
Ah oui. Jusque-là, oui.
À cause de la force de gravitation.
Oui.
Alors, vous imaginez, cette force de gravitation, elle dépend de la masse des corps. C'est pour cette raison que c'est la pomme qui va vers la Terre et non pas la Terre vers la pomme. Okay,
oui.
Maintenant,
oui,
vous imaginez un corps, mais extrêmement massif, tellement massif qu'il attire tout vers lui. Et il attire tellement tout qu'il empêche la lumière, sa propre lumière, de sortir. Donc, on a un trou noir. Pourquoi un trou? Parce que la lumière ne peut pas en sortir. Elle est aspirée par le trou et tout ce qui gravite autour de ce trou est aspiré vers ce puits. Voilà pourquoi on parle
Mathieu.
de trou noir.
C'est beaucoup plus simple. Appelez-moi Alain Sirou, il est viré. Jamy, je vous embauche.
Jamy, j'avais une question, parce que vous qui êtes quand même très branché sur les sciences, etc., comment vous vivez cette période où on s'aperçoit que quand même les scientifiques n'ont pas forcément les réponses à toutes nos questions concernant notamment ce virus?
Déjà, il y a plusieurs questions dans votre question. Il y a comment je le vis. Alors, personnellement, je ne le vis pas trop mal, parce que j'ai la chance d'avoir un petit jardin, que j'ai la chance d'être en activité, parce que depuis le début du confinement, eh bien le travail d'écriture sur le monde de Jamy se poursuit, qu'il y a ces petites capsules, donc je ne le vis pas trop mal. Mmh. Alors attention, il faut pas lever les bras et se dire c'est super le confinement, c'est une sale période, disons-le franchement. Alors on a demandé à beaucoup de personnalités de s'exprimer pour encourager finalement un petit peu nos concitoyens à vivre, à supporter ce confinement, mais c'est malgré tout une sale période. Franchement, je préférerais être dans la rue, au bureau avec mes camarades, échanger, discuter. Certes, ça nous a permis de lire, d'écouter de la musique, de regarder des films, mais ce qui fait la culture aussi, c'est l'échange ensuite. Je l'aime quand derrière, je peux échanger autour d'une table, d'un bon verre, ce que j'ai pensé de ce bouquin. C'est ça qui est intéressant. Donc, on fait en sorte que ce confinement se déroule le mieux possible, mais il faut pas se voiler la face, c'est pas un truc marrant. Voilà.
Mais pour revenir, Jamy, sur la question, la deuxième partie, c'est sur le côté vrai. Effectivement, quand on regarde les chaînes info, d'ailleurs, peut-être arrêter de les regarder tout le temps, mais on a l'impression qu'il y a des scientifiques tous plus pointus les uns que les autres qui n'ont pas du tout les mêmes avis. Enfin, disons qu'avant ça, personnellement, je me disais, les scientifiques ont réponse à tout et en quelques temps, il leur faut un peu de temps pour trouver les réponses et ils les trouvent. Et là, j'ai l'impression qu'on est démunis face à ce virus qui nous surprend. Chaque jour, on apprend de nouvelles choses. On a l'impression qu'il nous échappe complètement.
Alors, l'attitude que vous décrivez, Mathieu, je crois que c'est exactement l'erreur que nous avons tous fait. Et ce que nous montre finalement cette crise, c'est que la science, elle est confrontée à des problématiques et elle essaie d'y répondre. Mais que la réponse, elle n'arrive pas forcément de suite. Je crois que depuis les années 1950, on a eu extrêmement confiance dans notre science. On a cru que dès qu'un problème se posait, paf, il suffisait de claquer des doigts et on avait la réponse. Ben, c'est pas le cas. Et c'est ce que nous montre aujourd'hui cette crise. C'est-à-dire, on est confronté à un problème, on n'a pas toutes les réponses, on avance petit à petit. Ce virus, on le découvre, il faut du temps pour comprendre
comment il agit. Il faut du temps pour comprendre là où il faut agir pour l'empêcher de faire des dégâts. Il faut comprendre comment on peut faire une parade, comment on peut construire un vaccin. Ça ne s'invente pas en claquant des doigts. Et donc, je trouve que cette période nous permet de mesurer finalement comment la science avance. Elle avance par petits pas, par hypothèse. Donc, les uns font une hypothèse, les autres en font une autre. On fait une expérience, on valide, et puis on avance petit à petit. Mais on ne peut pas tout trouver d'un seul coup.
Plus d'humilité scientifique. Donc, Jamy, une toute dernière question, justement, d'un point de vue personnel. Je prends toujours mon exemple, parce qu'on est tous confrontés aux images qu'on voit à la télévision. Ça, moi, personnellement, je passe mon temps, ou je le passais plutôt, à chercher, à trouver une hypothèse moi-même sur le coronavirus, ce qui est impossible puisque je ne suis pas scientifique, mais à retourner, voir hydroxychloroquine, si on le mélange avec ça, si machin, d'autres études disent ça. Est-ce que vous, Jamy, en tant que curieux, que grand curieux, vous passez du temps aussi à lire les publications scientifiques pour dire quelle est la meilleure piste, etc., ou pas du tout? Vous êtes dans votre jardin et vous dites, justement, je laisse les scientifiques gérer ça. Et moi, je ne vais pas rentrer dans quelque chose qui, quelque part, me dépasse.
Alors, évidemment, que je les laisse travailler, mais je lis beaucoup. Je lis beaucoup et j'essaie de comprendre les protocoles. Mais surtout, je ne me permets jamais de mettre en avant, de faire un pronostic, parce que je suis incapable et nul. Personne n'est capable de faire un pronostic tant qu'on n'a pas fait une étude réalisée dans de bonnes conditions.
En fait, il nous faut du recul. Tout simplement, il nous faut du recul.
Exactement.
On ne peut pas trancher maintenant.
Ouais.
Il faut attendre. Et du temps. Merci beaucoup, Jamy. La capsule de déconfiner pour justement oublier un peu le coronavirus et se cultiver. Culture G, science. Il y a l'esprit, évidemment, c'est pas sorcier dans tout ça. C'est sur votre chaîne YouTube désormais. Merci beaucoup, Jamy Gourmaud, d'avoir été avec nous cet après-midi.
Merci Mathieu, merci Eva.
Europe 1.
Les plus grands économistes mondiaux ne cachent pas leur inquiétude. Jean Tirole, Thomas Piketty et Mathieu Charrier sont unanimes dans leur analyse.
C'est vraiment la caca, la cata, c'est la...
catastrophe.
Moins 5,8%, c'est tout simplement le plus mauvais chiffre depuis que l'INSEE existe. Toujours optimiste, notre expert éco-axel de Tarlet vous explique aujourd'hui que le pire est à venir. Juste après Alicia Keys, Underdog sur Europe.
She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love. And you'll find that someday soon enough you will rise up, yeah. Ooh, she's riding taxi back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love. And you'll find that someday soon enough you will rise up, rise up, yeah. Ooh, 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 we'll be right back.
Underdog, c'était Alicia Keys sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Restez optimiste et gardez l'espoir en cette période difficile. Tel est le défi que doivent relever chaque après-midi nos journalistes en compétition. Un défi pour lequel, avouons-le, Axel de Tarlet est mal barré cet après-midi. Axel qui, déjà la semaine dernière, broyait du noir, supportant de plus en plus mal la défaite. Il a en effet commencé à devenir agressif avec ses concurrents.
Je peux faire une remarque, je la trouve, si je peux me permettre, mon Jean-Philippe, inachevée ta chronique.
D'abord, vous ne me tutoyez pas.
Oui, le ton monte entre nos journalistes, ça va mal finir. Alors Axel de Tarlet, après 49 jours de confinement, vous n'avez plus d'amis, mais pour la France, c'est pire, elle n'a plus de croissance.
Oui, moins 5,8%. Bah tiens, je vais faire une petite pastille à la Jamie Gourmaud, parce que si on a fait moins 6, alors que c'était le premier trimestre, qui s'est achevé le 31 mars. Ouais. Le 31 mars, il n'y avait eu que 15 jours de confinement. Oh là là. Donc si, sur un sixième du temps, on fait moins 6%,
oh là là. Oui.
Sur 6 sixièmes, sur un confinement total, on ferait combien ?
Mais est-ce qu'on peut vraiment compter comme ça ?
Je vais vous répondre de manière très précise. On ferait beaucoup.
On ferait beaucoup, oui, voilà, c'est ça.
On ferait moins 36.
Exactement, c'est ce que j'allais vous dire.
Et c'est ce qu'on va avoir au deuxième trimestre.
Non, mais ça, c'est pas possible. Mais non, mais
c'est ce qu'on va avoir au deuxième trimestre.
On peut faire ce calcul-là, vraiment ?
Si, on peut le faire. Ben, si, pardon. Alors là, on peut le faire. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à partir du 11 mai, ça va un peu reprendre. Donc, on se dit qu'allez, on va reprendre à moins 17. Mais c'est pour ça qu'au deuxième trimestre, on va avoir une croissance négative entre moins 20 et moins 25%. Oh, donc, si énorme. Vous voulez, c'est pour ça que le chiffre du premier trimestre, c'est de la gnognotte, hein, parce qu'on n'a eu qu'un tout petit déconfinement de 15 jours. Mmh. Et d'ailleurs, vous avez vu, cette petite quinzaine, elle a réussi à faire dévisser le chiffre. Donc, le deuxième, c'est rien du tout. Alors, vous m'aviez dit l'autre jour, mais ce serait bien que tu nous parles de la décroissance. Parce
mais
que
oui,
c'est
le moment ou jamais, quelque part.
Eh bien, écoutez, c'est vrai que les chiffres de la pollution, selon les chiffres du cabinet SIA Partners, ont fait moins 58% d'émissions de CO2 en ce moment. Donc c'est quand même un moment fantastique.
Le déconfinement peut sauver la planète ? Confinement peut-il sauver la planète ?
En tous les cas, ça interroge, on est capable d'arrêter les émissions de CO2. On le voit, si on arrête l'économie, on arrête immédiatement les émissions de CO2. Et donc les décroissants posent quand même une vraie question, parce qu'ils disent cette économie nous mène dans le mur et demain nous suffoquerons sur l'autel de la croissance. Donc ils ont raison de dire on est capable d'arrêter les émissions de CO2. Et d'autant que ce virus nous a montré autre chose, il nous a montré la force de la nature. Vous savez, l'homme croyait pouvoir dominer la nature se venge, elle revient. Et vous avez vu la force de la réaction, on s'est arrêté. Vous avez vu, on a eu du pétrole négatif. Donc ce que je veux dire, c'est que l'homme qui croit tout dominer, qui croit pouvoir dominer les virus et qui croit pouvoir dominer le climat, eh bien non, la nature se venge et elle est forte. Donc quelque part, vous voyez, je veux dire, aussi bien philosophiquement que comptablement, les décroissants nous posent des vraies questions. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter cette croissance folle ? Est-ce que ce qui se passe en ce moment ne doit pas nous interroger ?
Axel, je ne vais pas me faire l'avocat du grand capital. On sait que pour moi, défendre l'ultralibéralisme sera un rôle de composition. Néanmoins, est-ce qu'on ne peut pas dire que la croissance permet aussi de financer, par exemple, la recherche ? Si on se retrouve, qu'on arrête la consommation, limite acheter des consoles de jeux, pourquoi pas ? Mais est-ce que la croissance ne permet pas de financer la recherche et donc la recherche pour le vaccin contre ce virus ou d'autres virus qui surgiront plus tard ?
Mais vous avez tout à fait raison. Ça veut dire quoi arrêter la croissance ? Ça veut dire arrêter la recherche, arrêter les labos, arrêter l'école ?
Oui, c'est ça le problème.
Ça veut dire demander à nos enfants de ne plus aller à l'école ? Ça veut dire fermer les entreprises ? Ça veut dire des millions de chômeurs ? Ça veut dire fermer les hôpitaux ? Parce qu'à la fin, les hôpitaux, qui les paye, c'est la croissance. Et puis ça veut dire bêtement ne plus partir en vacances, rester confiné tout le temps. Enfin, c'est pas une vie. Et donc, c'est pour ça que tout le monde dit c'est une autre croissance. Un peu plus. Alors, ça a l'air un peu idiot de le dire. Mais c'est vrai qu'on doit s'interroger quand même sur notre modèle. Et on l'a bien vu. Est-ce que on ne peut pas travailler en télétravail ? Est-ce que ce voyage en Chine pour un client, est-ce que je ne peux pas le faire avec du Zoom, etc. Et donc, ça va être tout l'enjeu de cette reprise. Ça va être une reprise un peu plus verte, qui nous montre que la nature est forte, qui nous montre que la nature est tapie dans son coin et qu'elle peut casser notre modèle de civilisation très vite. Ça va être la sortie du déconfinement va être intéressante. Il ne faudra pas que tout reparte comme avant.
J'espère que vous avez raison.
Oh là là.
Ouais.
Oh là là,
en tous les cas,
très belle chute.
Moins 36 au deuxième trimestre.
Hein. Ouais. Moins 36, accrochons-nous à ce qu'on peut, parce que moins 36, on va les sentir passer. Merci Axel pour cette chronique à la fois passionnante et édifiante. Et allez Axel, on enterre l'âge de guerre avec vos collègues. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, je crois. Allez, un petit conseil sympa à l'attention d'Arthur.
Bah, on se lave les cheveux, on se rase de près, on se met du déodorant.
Sympa, c'est sympa comme message. Merci Axel.
Europe 1.
C'est une des conséquences notoires et malheureuses du confinement, Axel.
On se lave moins, on mange plus.
Oui, mais surtout, faute d'invités dans notre émission, il n'y a plus de quiz de culture G entre Eva et l'invité, ce qui fait qu'on se lave moins, qu'on mange plus et qu'on se cultive moins.
Oui, c'est vrai.
Heureusement, on a gardé les bandes. A tout de suite pour le meilleur du quiz.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Comme je le disais souvent à Eva, qui cherchait toujours à se défiler à ce moment de l'émission, comme ces gladiateurs timorés qui ne descendaient dans le cirque Maxime affronter les fauves qu'à contre-cœur, on n'échappe pas à son destin.
Ah
on peut échapper à son destin une fois, mais on ne peut pas échapper mille fois à son destin. Comme le disait le philosophe Axel de Tarlé.
Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est l'heure. C'est pas l'heure, l'heure c'est l'heure, comme on dit.
Oh là là,
oui, alors, bien sûr, Eva, l'heure n'est plus au quiz contre l'invité, vu qu'il n'y a plus d'invité. Heureusement, il nous reste les souvenirs. Alors Dave, vous êtes né à Amsterdam. Oui. Ne cédant rien à la facilité, vous me connaissez. Pour le quiz du jour, nous avons décidé de faire un vrai-faux sur la Hollande. Les Pays-Bas, les Néerlandais, enfin sachant qu'on n'a jamais vraiment compris la différence entre tout ça. Vous
mais
répondez chacun votre tour. Chaque bonne réponse vaut un point.
Mais évidemment qu'il va gagner,
mais
Dave.
C'est le principe de ce quiz. C'est chaque fois l'invité.
C'est voilà. Gentil. C'est,
voilà. Dave, en 2013, les médecins de l'université d'Utrecht sont tombés sur un cas étonnant. Une femme qui avait des orgasmes par les pieds. Vrai ou faux?
Ah bah j'étais parti en 65. Donc on a égalité devant cette question. Mais c'est sûr qu'on peut prendre son pied.
Ah, vous répondez oui, vous avez raison. Du pied gauche même. Les
mais
orgasmes
non.
Duraient de 5 à 6 secondes et se produisaient 5 à 6 fois. Le cerveau avait un dysfonctionnement. Les informations venant du pied étaient interprétées comme venant du vagin.
Mais c'est horrible.
Mais ce qui est terrible, c'est la conclusion. Elle a finalement été guérie. C'est que vous voyez idiot de la guérir, parce que si on peut prendre son pied par le pied.
Mais non, mais si, parce que si à chaque fois qu'elle marchait, elle avait un orgasme, ça fait.
Imaginez, ça serait le bonheur. Ça serait le bonheur.
J'adorerais.
Eva Rock, la France et les Pays-Bas ont une frontière commune. C'est le moment de visualiser une carte. Frontière commune, vrai ou faux?
Bah non.
Non, pas de frontière commune, hein.
Bah non.
Ça serait. Mais en même temps, qu'est-ce que ça foutrait dans un quiz s'il y avait cette question? Bah c'est vrai.
Dans les Caraïbes,
le nord de l'île de Saint-Martin est française,
oui,
le sud est néerlandais. Eh ben oui, mais il fallait réfléchir, c'est ça le problème. C'est ça le problème de ce quiz, c'est qu'il faut réfléchir. Même principe, une question, trois propositions. Gwenny et Marino sont flamands, ils ont 9 enfants et sont un peu facétieux. Qu'ont-ils fait? 1. Ils ont tous un prénom avec juste les lettres A, X, E et L. 2. Ils ont tous appris une langue différente, du coup les dîners sont un peu compliqués. Ou 3. Ils ont tous les cheveux roses, ce qui est rigolo pour des flamands.
Non.
Alors,
non,
là tout de suite une précision importante pour nos auditeurs qui me suivent depuis longtemps. Ça, c'est la seule partie de l'émission que je ne rédige pas, c'est le quiz. Hein. Voilà, c'est une sorte de bombe piégée pour moi-même. Donc, je salue Sébastien Bordenav qui concocte ces questions.
Elle est géniale cette
voilà,
question.
Voilà, elle est. Oui, ça, je ne sais pas. Alors, d'après vous,
qu'est-ce que vous dites, Dave?
Bah, je veux dire que tant de prénoms avec Alix, Axel, etc. Ça me semble compliqué. Mais si les parents sont rouquins, pourquoi ils ne sont pas rouquins?
Ouais.
Au moins, c'est possible.
Ouais.
Donc, moi, je dirais ça.
Vous dites quoi? Vous dites les
cheveux roses.
Les cheveux roses? Non, les lettres dans les prénoms.
Eh bien, Eva, une fois n'est pas coutume, vous marquez un point dans cette émission.
Quand même.
Le premier enfant, c'était Axel, donc assez simple. Le deuxième, Alex. Du coup, ils ont trouvé amusant de continuer. Les autres s'appellent Xal, Xela, Lexa, Xael, Xeal, Exla et Léax.
Ouais.
Eh oui, on embrasse les Flamands.
Ouais. C'est pas des Hollandais. Hein.
Non, c'est vrai. C'est important de faire un distinguo.
Ouais. Ah,
Eva Rock, on a parlé ici des vaches à qui l'on donnait à manger des graines de lin pour limiter les émissions de méthane.
Oui.
J'ai envie de dire, hélas, on a parlé de ça. Aux Pays-Bas, il existe des urinoirs pour vaches. Vrai ou faux?
Oh, pourquoi pas? Je dirais oui.
Visualiser la situation. Une vache.
Oui, c'est compliqué.
Elle se rend.
Bah, oui, ça peut être un grand urinoir.
Et
comme
ça lieu de drague, tu vois.
Comme une sorte de petite cabane où la vache peut aller faire pipi.
Ouais, une sorte de petite cabane, oui.
Ouais.
Bon,
ouais,
vous avez raison, mais je pense que vous avez été chanceux. Ça s'appelle le cow toilet. Il réceptionne l'urine pour réduire les émissions d'ammoniac.
Ah.
Principe simple, quand la vache est dans son box pour manger, une fois le repas terminé, un robot stimule un nerf au-dessus de la mamelle, ce qui donne à la vache l'envie d'uriner.
Qui n'a rien à voir avec la dame qui avait des orgasmes par les pieds juste avant.
Non.
C'est pas grave.
Très bonne réflexion, Eva. Dave, attention, ça va vous départager. Pour entrer dans la maréchaussée royale, la fameuse, alors là, si je suis arrivé à prononcer ça, Koninklijke.
Koninklijke.
Oui, bah, exactement, maréchaussée. Ceux qui passent le concours doivent connaître par cœur l'arbre généalogique de la famille royale sur 10 générations. Vrai ou faux?
Oh non, sûrement pas, c'est pas le genre des Pays-Bas, ça.
C'est pas le genre des Pays-Bas, mais oui, forcément, il connaît bien les Pays-Bas. Faux. Par contre, aux Pays-Bas, toutes les voitures de police, alors ça c'est très Pays-Bas, ont des nounours dans le cas où ils auraient à faire une intervention avec des petits-enfants pour mieux les rassurer. C'est pas une bonne idée ça?
Ah oui, carrément.
On devrait s'inspirer des Néerlandais. Égalité, ah j'aime bien quand c'est l'égalité entre Dave et Eva pour une fois, comme ça vous n'êtes pas tout à fait ridicule, c'est très bien.
Europe 1.
Nous sommes le lundi 4 mai 2020 et sans prévenir, sans que vous ayez eu le temps de vous y préparer, il y a 49 jours, votre vie s'est transformée en péplum sanglant avec Charlton Heston. Dans le rôle des gladiateurs, vous, dans le rôle des fauves, primitifs, féroces, indomptables, vos mioches. Comment vous en sortir? Réussir par exemple à télétravailler un petit peu? Eva Rock, la Siegfried et Roy du PAF, vous aide à dompter ces petits monstres en les mettant devant la télé. Elle vous fait ses recommandations juste après les Rita Mitsuko. Andy sur Europe 1.
Ah, c'est bien ça.
Hey Andy, c'est une copine à moi qui m'a dit que tu t'appelais Andy. Andy, ça fait un moment que je te suis, Andy. Eh, tu viens chez moi? Alors on va chez toi. Allez, Andy, quoi. Oh, dis-moi oui.
C'était l'Erita Mitsuko, un son qui rappelle de belles années à Eva.
Ça me rappelle toutes mes booms. Ah oui, j'adorais cette chanson.
Ça permet de vous dater plus efficacement que le carbone 14. Merci Eva.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
2020 restera dans les manuels d'histoire comme l'année où la science-fiction a rejoint la réalité.
C'est clair, hein.
Avec le blockbuster dont nous sommes les héros et dont on se serait bien passé, plus flippant que Inception, plus terrifiant que 28 jours plus tard, 49 jours plus tard, des parents confinés avec des êtres plus dangereux encore que des zombies, des enfants. Des enfants sans morale, sans pitié, sans limite.
Quoi ? Tu m'as donné mon chocolat de la main droite alors que moi je voulais de la main gauche.
Bon sang, comment sortir de ce cauchemar ? Une solution existe, placer les zombies, les enfants devant un écran. C'est complètement radical, pas vrai, Eva ?
Oui, c'est un peu radical, mais bon, écoutez, déculpabiliser, on a besoin aussi de souffler un peu.
Moi, je déculpabilise complètement.
Exactement. Maintenant. Alors, d'autant que j'aimerais débuter cette nouvelle semaine de confinement avec un site créé par un génie, un auteur et illustrateur qui a bercé des générations d'enfants et qui continue. Il s'appelle Claude Ponty, en 2009. J'adore Claude Ponty.
C'est magique,
voilà, exactement.
Ponty.
Eh bien, en 2009, il a eu une excellente idée. Il a permis d'ouvrir le premier musée virtuel réservé aux œuvres d'enfants. Le site s'appelle lemuse.org. Alors le muse, c'est M-U-Z. Et c'est absolument génial. Vous pouvez déposer les œuvres de vos enfants. Elles se retrouvent ainsi dans les allées virtuelles de ce musée. Alors elles sont classées en fonction du dessin, des portraits, des paysages. Mais aussi selon un thème donné par Claude Ponty, le dernier en date en cette période de confinement, c'est « Dessine ta chambre comme une île ». Et allez voir, il y a des dessins qui sont absolument magiques. C'est vraiment, mais c'est très très beau, c'est très réussi. Et puis sur le site, je vous le conseille aussi parce qu'il y a des jeux, dont deux que j'adore. Le premier, c'est Les histoires à continuer. Claude Ponty a écrit le début de plusieurs histoires différentes et c'est à vos enfants d'imaginer la suite. Et
c'est
alors,
génial.
Ils peuvent l'écrire, ils peuvent faire des petites vidéos ou des dessins et puis le déposent sur le site internet. Et il y a un autre jeu, alors c'est pour les plus petits. Claude Ponty propose des coloriages. En fait, il a dessiné quelques-uns de ses poussins qui est un peu son dessin référence. Notamment, hein, parce qu'il y a d'autres aussi, d'autres animaux qui sont dessinés. Et puis, c'est à vos enfants de leur donner de la couleur, mais en suivant les instructions de l'auteur. Par exemple, il y a 5 poussins sur une page et il a écrit, Claude Ponty, à côté, sur ces poussins. Il y en a un qui a pataugé dans la boue, un autre qui a plongé dans la sauce tomate, un qui s'est éclapatouillé, il adore inventer des mots, hein, dans la crème chantilly, un autre qui a dormi dans des nouilles et un autre qui a nagé dans la sauce brocoli. Mets-leur leur couleur pour qu'on les reconnaisse bien. J'adore. Il y a un côté poétique et surréaliste qui est absolument génial. Génial. Vraiment, prenez le temps d'aller avec vos enfants, d'aller vous balader dans lemuse.org, donc lemuz.org. Il y a plein de choses à faire avec vos enfants, c'est extra. Voilà.
Moi, je suis assez fan de Claude Ponty pour les enfants. Je peux vous conseiller celui qu'on lisait avec mon fils, ne serait-ce que la semaine dernière. Ça s'appelle Sur l'île déserte, en plusieurs mots.
Les herbes
sont des petits personnages. Et c'est toujours très poétique.
Et il adore faire des liaisons magiques. Voilà, ouais. Exactement.
Et plein d'inventions de mots aussi, plein de néologismes.
Exactement.
Très joli. Pour les ados, Eva, vous avez autre chose que des coloriages?
Oui, évidemment. Une série à voir sur le site France.tv et qui est intitulée Askip, le collège se la raconte, qui est destinée plutôt aux préados, c'est-à-dire les 10-14 ans, voilà. Alors, petit préambule, Mathieu, connaissez-vous la signification de Askip ?
Askip, c'est de la lessive.
C'est presque ça.
Plus blanc que blanc.
Dans le langage des ados, ça veut dire « à ce qu'il paraît ». À ce qu'il paraît, à ce qu'il voilà. Alors, à ce qu'il paraît, c'est quoi? C'est les incertitudes, c'est les doutes, c'est bien ce qui ronge la plupart de ces ados. Ils sont au collège François Truffaut à 7 et la série va suivre leur quotidien au sein de l'établissement. C'est une fiction. Et c'est la rentrée d'ailleurs et les élèves découvrent qu'avec leur professeur, il y a deux autres hommes qui sont dans la classe.
C'est qui eux? Je sais pas, des inspecteurs de l'académie?
Je pense pas, les inspecteurs, ils ont toujours une cravate.
Bah, des nouveaux profs alors?
Oui, bien sûr. L'éducation nationale a tellement d'argent qu'ils vont nous mettre 3 profs par classe maintenant.
Alors en fait, non, c'est pas des inspecteurs, il s'agit de 2 réalisateurs. Ils viennent tourner un film sur ces collégiens et ils vont proposer aux collégiens de participer à ce projet. Alors en leur laissant une caméra pour qu'ils filment tout ce qu'ils souhaitent en fait. Jules, qui pense être né réalisateur, filme tout, même quand une de ses camarades pleure aux toilettes après s'être faite larguer par son copain. Voilà, c'est des choses qui arrivent au collège. Et dans la classe, tout le monde est un peu choqué en découvrant ces images qui sont vraiment des images volées. Explication de texte ensuite.
Mais vraiment, je comprends pas. C'est des images fortes. C'est ce que vous aviez demandé.
Non mais, des images fortes, c'est pas des images humiliantes. Surtout quand on n'a pas l'accord des gens.
C'est pas de ma faute si elle s'est fait têche. Enfin, moi j'ai filmé la vraie vie.
Non mais, là c'est le domaine privé. Montrer la réalité, ça veut pas dire tout montrer. Tu comprends la différence? T'as vu dans quel état elle était?
Alors, dans la famille des séries pour ados, Askip mérite vraiment le détour par son réalisme, sa capacité à traiter les problématiques de cette génération, le harcèlement, la phobie scolaire, les rapports amoureux, évidemment, mais aussi comment se faire une place au sein de la société, comment envisager l'avenir et puis les engagements aussi de ces jeunes. Autant de thèmes abordés, mais sans jamais céder à la caricature, c'était vraiment un défi et le défi est amplement gagné. Donc avec Askip, que je vous recommande, et c'est à voir sur France.tv et c'est gratuit.
Et voilà, nos enfants et nos adorants, une fois de plus, les yeux rougis grâce à vous, Eva, mais au moins, oui, ils seront silencieux. Bravo.
Europe 1.
L'ivresse de la compétition, l'allégresse d'une bande de potes. L'équipe sauvage revient pour une deuxième manche encore plus palpitante au service de votre bonne humeur et de votre culture G avec les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui, même confinés, ne se laissent pas aller, comme le prouve ce off d'hier entre Mathieu Charrier et Eva Rock.
Attendez, j'arrive dans 30 secondes, il faut juste que je récupère un livreur, j'arrive à tout de suite.
Ah bon, d'accord. Ah ben voilà, t'as récupéré ton petit colis ? C'était quoi dans le colis ?
C'était du vin. Faut tenir quoi, tu vois.
À tout de suite, avec toute l'équipe au grand complet, sauf peut-être Modération qui manquera à l'appel, ça fait un moment qu'on l'a pas vu lui.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.